Bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Et je peux vous dire, ce jour, ça va balancer dans 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur nos grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Et ce jour, eh bien, je peux vous dire que de fait, ça bougeait dans les petites images du film auquel nous allons consacrer l'entièreté de cette émission. Mais il le vaut bien pour tous les fans. Un film tourné en 1980 par Steven Spielberg. Alors si je vous fais oh oui, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, une émission entière sur Les Aventuriers de l'Arche Perdue et uniquement sur le premier épisode. On passera sous silence les suivants. Uniquement donc sur ce premier épisode signé en 1980 par Steven Spielberg sur un scénario de Laurence Kasdan. Laurence Kasdan, duquel je dirai quelques mots tout à l'heure, dès que j'arriverai à prononcer son nom correctement, pour un film qui fut concocté bien d'une certaine manière sur une plage d'Hawaï, me dit ma petite fiche, par George Lucas et Steven Spielberg qui venaient lors de signer pour l'un Star Wars et pour l'autre Rencontre du troisième type, de film qui n'était pas encore sorti, mais me dit ma petite fiche, certains du succès de leur prochain film, comme ils avaient bien raison, aussi bien l'un comme l'autre cassèrent la baraque, eh bien ils s'essayaient à trouver qu'est-ce qui pourrait renouveler un peu le genre du film d'aventure, et c'est à ce moment-là que George Lucas raconta à Steven Spielberg les grandes lignes de ce qu'allait devenir Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est-à-dire un film hommage un peu ironique mais tendre mais nostalgique aux films d'aventure des années 30 et 40 qui avaient certainement bercé l'enfance de cinéphiles des susdits. Autre inspiration, alors là beaucoup plus étonnante, mais il la revendiqua même dans une lettre qu'il écrivit au réalisateur, eh bien celle de L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo, signé de Philippe de Broca, que Spielberg, prétend-il, avait revu plusieurs fois avant de se lancer dans le tournage des Aventuriers de l'Arche Perdue, à tel point qu'il écrivit au dit Philippe de Broca pour l'en remercier. Comme quoi, parfois, certains cinéastes américains ont de la classe, et de fait, Philippe de Broca fut dans les années 60 un cinéaste aventurier dont la tonalité, mais certainement pas l'ampleur, rappelle un peu celle des Aventuriers de l'Arche Perdue. La musique. Mais oui, vous avez bien raison, on a largement encore l'occasion de parler du film. Donc on va s'écouter un petit extrait de la bande originale. De qui la bande originale, fidèle de 24 notes secondes? Mais de John Williams, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement s'agissant de Steven Spielberg? La musique. Oui, on y va, 24 notes secondes. We'll be right back. on ne s'en lasse pas, évidemment, la bande originale de Les Aventuriers de l'Arche Perdue dans 24 notes secondes. Je dis bien la bande originale, ce n'est pas générique pour ceux qui ont vu le film et qui n'ont pas vu Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Ça commençait évidemment avec la course éperdue de Indiana Jones, le héros du film, devant une grosse boule de pierre après qu'il ait eu enlevé une espèce de statuette, dans mon souvenir, fétiche. Bref, un film absolument enthousiasmant qui raconte, mais est-il besoin de rappeler, les péripéties d'un professeur d'archéologie alias Harrison Ford, Indiana Jones, eh bien, qui parcourt le monde à la recherche de trésors et qui va se trouver confronté dans ce premier épisode aux immondes nazis, bien évidemment eux-mêmes à la recherche de l'Arche d'Alliance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, le tournage de ce film débuta le 23 juin 1980 à La Rochelle, en Charente-Maritime, en France, donc, dans une base sous-marine pour les scènes situées dans les cavernes souterraines, qui impliquaient justement un sous-marin nazi. Ensuite, eh bien, le tournage se poursuivit, notamment en Tunisie, pour toutes les scènes situées en Égypte. C'est le charme du cinéma américain que de détourner un peu les lieux, et bien d'autres scènes fameuses furent tournées de par le monde. La petite fiche qui ne ment jamais rappelle que pour une scène fameuse, dont nous allons peut-être écouter un extrait de la bande originale où l'on voit Harrison Ford en prise avec des serpents, eh bien il y en avait plus de 7000 serpents. Et puis surtout, alors là après c'est l'histoire qui tranchera, la petite fiche raconte comment fut tournée cette scène où l'on voit Harrison Ford poursuivi par un sabreur extrêmement méchant et qui se demande comment il va pouvoir réussir à le circonvenir et qui sort tout simplement son pistolet pour l'abattre. Alors évidemment, c'est pas très drôle, mais en même temps, c'est très drôle. Il semble que ce soit Harrison Ford lui-même qui ait demandé à Steven Spielberg comment on pouvait raccourcir une scène qui était trop longue parce qu'il était malade ce jour-là et que Steven Spielberg a dit « Ah bah oui, bah tiens, on va le faire comme ça ». Légende, histoire, comme disait John Ford dans L'homme qui a tué Liberty Valance, quand la légende dépasse la réalité, eh bien, il faut imprimer évidemment la légende, en tout cas, les aventuriers de l'Arche perdue regorgent de scènes cultes, et il faut bien reconnaître qu'on en doit une large part à Laurence Kasdan, que j'ai évoqué, et auquel il faut donc rendre hommage. Laurence Kasdan, qui fut d'abord un scénariste donc remarqué, puisqu'il arriva dans les années 70 à Hollywood, dit ma petite fiche, qui ne ment jamais, avec sous le bras le script de Bodyguard, mais qu'il ne put jamais tourner, qui fut tourné 20 ans plus tard avec Kevin Costner dans le rôle principal, mais qui a pu l'oublier. Non, je ne vous chanterai pas la chanson de finale de Bodyguard, ce n'est même pas la peine d'insister. Ensuite, eh bien, il fut aussi le scénariste de L'Empire contre-attaque, probablement le meilleur épisode de la saga dès la guerre des étoiles. Et puis ensuite, il passa à la réalisation, notamment avec La Fièvre au corps, un hommage au film noir très remarqué en 1981, puis une série de films chorale, je ne saurais trop dire, avec notamment Kevin Kline ou Kevin Costner dans les rôles principaux. Il y eut Les Copas d'abord en 1983, il y eut Grand Canyon, il y eut deux hommages au western, alors l'un plutôt réussi, Silverado, l'autre plutôt un peu lourd, Wyatt Earp. Et puis, eh bien, dans les années 80-90, Laurence Kasdan connut une éclipse qui peut-être, devrait s'achever, puisque on l'annonce aux manettes des scénarios des nouveaux épisode quasiment en tournage de La Guerre des Étoiles. Ce serait, ma foi, une sorte de retour aux sources, mais on ne sait trop ce qu'il en est. Donc, petit hommage à Laurence Kasdan, petit hommage au scénario, la musique, mais vous en voulez toujours de la musique, mais vous avez bien raison, elle est signée de John Williams, c'est mieux. On s'en écoute un nouvel extrait sur Divergence FM. Thank you. Bon, ça craque un peu, mais c'est quand même l'ample musique du Puits des Âmes. Effectivement, un extrait de la bande originale des Aventuriers de l'Arche Perdue, une musique de John Williams, à laquelle, en tout cas au film, nous consacrons cette émission de ce jour. Un film qui met en vedette, bien évidemment, Harrison Ford, qui trouve, à l'occasion des Aventuriers de l'Arche Perdue, le deuxième grand rôle de sa vie. Le premier avait été celui de Han Solo dans La Guerre des Étoiles, pour un acteur américain né le 13 juillet 1942 à Chicago, dans l'Illinois, et qui commence évidemment à jouer la comédie, je dis évidemment car c'est souvent le cas avec les acteurs et les stars, à jouer la comédie dès le collège dans le Wisconsin, et en 1963 il s'établit en Californie où il continue à poursuivre des activités théâtrales tout en étant pris sous contrat par la firme cinématographique bien évidemment Columbia. Ma foi, ce n'est pas une grande réussite puisque entre 1966 et 1970, on le voit dans 5 films seulement, dont un seul paraît digne d'intérêt. Je n'ai vu aucun, je l'avoue. La Brigade des Cowboys, Journey to Shiloh de William Hale, tourné en 1968. Et puis ensuite, il tourne aussi dans quelques séries télé, en tout cas, comme L'Homme de Fer, Le Virginien ou Dynasty. Mais oui, apparemment, on peut voir Harrison Ford dans un ou plusieurs épisodes de Dynasty. Cherchez bien. Et il retourne, aussi étonnant que ça paraisse, à ses activités de menuisier où peut-être il serait encore et on n'aurait jamais entendu parler de lui. Sauf qu'en 1973, George Lucas, déjà évoqué, fait appel à lui pour tenir l'un des rôles principaux dans American Graffiti, qui est cette année-là un énorme succès, un film choral, mais dans lequel Harrison le jeune, en 1973, il a 29 ans, ou plutôt 31 même, où donc Harrison le jeune se fait connaître et en 1977, elle a encore 2 ou 3 années à vide, il éclate totalement en interprétant donc le rôle de Han Solo, l'aventurier dans son genre séduisant du premier épisode de La Guerre des Étoiles, le rôle qu'il retrouvera en 1980 dans L'Empire Contre-Attaque, The Empire Strikes Back, et en 1983 dans Le Retour du Jedi. Entre-temps, on l'aura vu dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, là encore aussi étonnant que ça paraisse. On l'aura vu bien évidemment, nous y consacrons l'émission de ce jour dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et puis surtout, on l'aura vu dans un rôle pour lequel, d'après Spielberg, il a ajouté une dimension quasi mythique à son métier d'acteur, le personnage du chasseur de réplicants dans le cultissime Blade Runner de Ridley Scott, tourné en 1982, auquel nous avons, je crois, consacré une émission et où, de fait, il est absolument magistral dans cet univers glauque d'une Los Angeles du 21e, 22e, je ne sais plus, siècle, où il n'y a que des orientaux, où il pleut beaucoup. Tiens, comme maintenant ? Non, pas comme maintenant. En tout cas, un film absolument inoubliable, fascinant, aux effets spéciaux signés Douglas Trumbull, peu égalé depuis, peut-être, s'il fallait juste faire un tout petit reproche à Blade Runner, ce serait la bande originale signée Vangelis. On aurait pu suggérer à l'époque d'autres compositeurs. En tout cas, c'est pour Harrison Ford l'occasion de signer un très grand rôle, d'être dans un très grand rôle. Mais bien évidemment, on n'aura pas oublié ses prestations dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, mais aussi dans les suites. Alors j'ai dit que je n'en parlerai pas. On n'en parlera que d'une, celle qu'il tourne dès 1984, soit 3 ans après le premier opus, c'est mieux, Indiana Jones et le Temple Maudit. Là encore John Williams, mais on va rester sur Les Aventuriers de l'Arche Perdue, si vous le voulez bien. Allez, on s'en fait encore un petit extrait dans 24 notes secondes. Thank you. craque un peu, mais c'est quand même un puissant thème d'amour. Un extrait de la bande originale des Aventuriers de l'Arche Perdue, Steven Spielberg, 1980. Vous finirez par le savoir. D'amour, bien sûr, il en était question. Comment pouvait-il en être autrement? Puisque le bel ou le beau Indiana Jones, le bel Indiana Jones, ça fait bizarre, rencontrait au cours des péripéties à la recherche de l'Arche de la Sainte Alliance, Marion Ravenwood, la fille de Ravenwood qui avait aidé auparavant le dit Indiana Jones, Marion Ravenwood, qui est interprétée dans le film par une actrice qui n'eut pas une carrière excellente, enfin en tout cas pas à l'aune de ce rôle qui fut certainement son plus connu, Karen Jane Allen, actrice américaine née le 5 octobre, on ne dit pas à l'âge des dames, elle aussi, tout comme Harrison Ford, dans l'Illinois aux États-Unis, mais pas à Chicago apparemment, et qui commença sa carrière en 1978 dans un film de John Landis, plus connu pour les Blues Brothers, American College. Ensuite, on le fit quelques apparitions, j'adore le terme apparition, appliqué aux actrices dans les films et notamment dans le sublimissime Manhattan, signé par Woody Allen. Son premier grand rôle est dans un film de William Friedkin, l'auteur de French Connection 1 et 2 et de L'Exorciste, en l'espèce dans Cruising, la chasse en 1980, mais c'est cette même année 1980 qu'elle obtient la consécration avec son rôle de Marion, donc dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, un film qui aurait dû lui ouvrir grand les portes du cinéma hollywoodien. Mais hélas, comme parfois cela arrive, ses choix de films ne furent sans doute pas suffisamment pertinents. On pourra en retenir quand même le Starman de John Carpenter, une très jolie et très nostalgique histoire qui connut un très très peu grand succès et qui sans doute fit que dans les années 90 et comme on dit pudiquement, elle se fit plus rare sur les écrans. Choix ou contrainte, on ne sait pas trop. On l'a vu ensuite dans les années 90 dans Malcolm X. On l'a vu aussi dans le En pleine tempête de Wolfgang Petersen, quelque part aux côtés de George Clooney et à mi-chemin entre La tornade et L'ouragan. Et surtout, elle effectua bien sûr un retour triomphal, on ne sait pas, dans le film dont il n'est pas forcé et pas conseillé forcément de dire le nom aux amateurs de la trilogie. Indiana Jones, allez, je le dis quand même, mais vous ne pourrez pas me le reprocher après, je le dis très vite. Indiana Jones, c'est le royaume du temple galactique, vous l'avez compris sans doute, où elle reprenait donc son rôle de Marion quelques années après, mais avec toujours la même fraîcheur et en tout cas l'occasion avec Indiana Jones et le royaume du temple galactique de juger que, sans doute, mais personne n'en doutait, le premier opus était de loin le meilleur, un film qui était vraiment très très belle. Une très très belle hommage à tous ces films des années 40-50 qui avaient bercé en tout cas l'enfance de cinéphiles, de ces réalisateurs. Et puis moi j'avoue, en tant que fan, que ce que je trouve le mieux dans le film, eh bien c'est justement sa fin si étonnante où l'on voit l'Arche d'Alliance dont la conquête a justifié plein de morts violentes, etc. finalement conquise de haute lutte par Indiana Jones, être mise dans une caisse et cette caisse on la range dans un entrepôt qui lui-même est dans un autre entrepôt qui fait qu'après on ne sait plus où est la caisse et je trouve que c'est une idée scénaristique absolument géniale à l'image d'un film qui n'était pas moins une petite touche ironique finale pour un petit bijou de cinéma qu'on aimerait revoir plus souvent. En attendant de le faire, précipitez-vous sur ce DVD. Eh bien, on en écoute un dernier extrait, John Williams Forever. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you.